J'accueille tout de suite donc la CIMADE, notamment avec Pierre. Bonjour Pierre.
Salut.
Alors Pierre Grenier, tu es responsable régional de la CIMADE. Donc régional, c'est une grosse région maintenant.
Aquitaine, Midi-Pyrénées.
Waouh, d'accord. Et Andris également, bonjour à toi.
Bonjour.
Approche-toi un petit peu, voilà. Et tu es toi-même, donc tu es bénévole.
Je suis bénévole.
Bénévole à CIMADE, voilà. Alors, tout d'abord, merci Pierre, parce que dès qu'il y a eu, à peine vous avez entendu parler de l'émission de radio, il y a eu une immédiate réponse depuis de la CIMADE de dire « Ok, on en est ». Tout d'abord, pourquoi ? Pourquoi tout de suite « Ok, on en est » de cette émission ?
Parce qu'on se retrouve totalement dans l'objectif là de l'émission de radio, de toute la soirée, dès qu'on peut, avec tous les gens qui sont ici, essayer de briser ces murs, fermer les centres de rétention et compagnie, on arrive, quoi.
Donc d'accord, ça c'est bon à entendre. Donc fermer les centres de rétention, ok, on est partant.
Ah ben ouais, bien sûr.
Ouais. Ouais.
Ah
ouais.
Alors on intervient dans les centres de rétention.
Oui, c'est ça.
Il faut les fermer.
C'était la question suivante. Ouais, justement.
Alors on peut peut-être préciser. Hein, la CIMADE, c'est une des plus vieilles associations qui intervient dans ce domaine-là.
Ouais, dans les centres de rétention en particulier, ouais, parce qu'on était les premiers à y intervenir quand ça s'est créé en 84, sur D'accord. une logique un peu différente d'aujourd'hui, mais qui était déjà de toute façon de légaliser un enfermement qui préexistait, mais qui était caché finalement. Donc on a le gouvernement de l'époque a institutionnalisé finalement l'enfermement des migrants. Et la CIMADE a décidé à l'époque d'y intervenir de par aussi son histoire, puisqu'elle s'est créée en 1939 en intervenant notamment dans les camps d'internement. Et il y avait une logique à aller dedans pour dénoncer ce qui s'y passait. En fait.
Tout à fait. Donc il y a deux données, là tu donnes des dates, ouais. Et c'est bien aussi de revenir là-dessus. 1939, donc début de la CIMADE. Donc à ce moment-là, c'est plutôt un groupement de personnes d'obédience plutôt protestante. Hein, ce sont des protestants,
ah oui.
Tout à fait. Et qui vont défendre au fil du temps, ils vont défendre tantôt des gens qui viennent d'Espagne, des anars espagnols comme des juifs pourchassés. Mmh. Et ensuite des personnes donc décolonisées, on va dire, qui arrivent ici en France dans des situations de très très grandes difficultés aussi. Et on sait quoi, la CIMADE perdure et change en même temps. Hein, ce n'est plus d'obédience protestante absolue aujourd'hui.
Non, il y a un lien fort lié à cette histoire-là, c'est clair. Mmh. Nous, tu vois, dans la région, on a en gros 300 bénévoles, on a la moitié des locaux qui sont mis à disposition par l'église protestante.
Okay.
Donc ça nous aide aussi,
soutien,
tu vois.
Ouais, ouais.
Mais donc il y a un lien historique avec, mais aujourd'hui il y a des gens de partout, ouais, évidemment.
Ok, et notre.
C'est œcuménique, on dit.
Ouais. Œcuménique. C'est pas tout à fait un gros mot, œcuménique. Oui. Et puis également, tu as dit notre date, 1984. 1984, c'est le début des centres de rétention administrative en France.
C'est pas George Orwell ?
Non, pas du tout. Oui, c'est un peu aussi, si, c'était le début, on va dire aussi. Et c'est effectivement. C'était quoi ? En fait, il y avait, bien sûr, des personnes considérées sans papier en France, mais qui étaient plutôt, mises honteusement, souvent, dans les geôles des commissariats. En fait, hein, c'était à peu près ça. C'était surtout les commissariats qui, et du coup, les commissariats, c'était limité en nombre de places, tout simplement.
C'était limité. Puis il y a eu un gros scandale. Là, c'était pas un commissariat, c'était carrément un hangar dans le port de Marseille, le hangar d'Arenque, où il y avait un petit manège qui avait été repéré par pas mal de militants à l'époque, où on voyait des bateaux s'arrêter devant ce hangar et des policiers amener des gens qui étaient dans ce hangar. Et en fait, ça a explosé, ça a été rendu public qu'il y avait des centaines de personnes enfermées sans contrôle, de juges, etc. Et qui étaient envoyées dans des bateaux direction Algérie, Tunisie, etc.
Directement.
Et du coup, en levant ce scandale, finalement, l'État s'est vite retourné puisqu'il a créé finalement une forme légale d'enfermement. Alors évidemment avec un contrôle de juges, mais en tout cas en institutionnalisant l'enfermement des personnes sans papier.
En institutionnalisant, en fait, qu'on met en prison des personnes pour seul motif qui n'ont pas de papier.
C'était ça.
Et on doit ça à 1984. Qui était au gouvernement, en fait? C'était pas un gars qui était soi-disant socialiste?
Ah, si, sûrement.
Un gars aussi qui avait notamment amené son élection avec un des trucs qui était de dire « Oh, les gens qui êtes là en France, les gens qui êtes... les Maghrébins, oui, surtout, qui êtes là en France, bien sûr. Vous aurez le droit de vote. Voilà, » Donc, c'était 1981, ça, François Mitterrand. Bon, voilà. Donc, juste, j'aime bien rajouter là-dessus. Non. Justement... à titre personnel, Pierre, justement, mais... qu'est-ce que tu penses de cette... C'est parce que finalement, on est passé d'un système où c'était un peu honteux la manière dont on cachait ou traitait les sans-papiers à quelque chose qui est plus institutionnalisé, mais qui est pas moins honteux finalement.
Enfin, est-ce que c'est un progrès? Enfin,
qu'est-ce que t'en penses?
Ah non, c'est certainement pas un progrès. Après, tu peux te placer d'un point de vue ouais. séparation de pouvoir. Donc à partir du moment où t'enfermes plus. De simple autorité administrative sans contrôle, oui, de ce point de vue-là, tu vas dire oui, un contrôle d'un juge indépendant, etc. Bon, ok, reste qu'il y a des personnes derrière des barreaux parce qu'ils n'ont pas les bons papiers. Quand même, fermer les centres de rétention, ouais, mais si on ne change pas la loi, si on ne change pas la logique d'accueil, le paradigme vis-à-vis de l'immigration, de toute façon, on va dans le mur. Parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les centres de rétention, ouais, il faut les fermer, il n'y a pas de souci. Reste qu'aujourd'hui, ce n'est pas par les centres de rétention que la plupart des gens expulsés passent. Il y a eu un changement depuis 3 ans environ, c'est que les murs, ils sont devenus invisibles. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens en rétention, il y a toujours autant d'expulsions, voire plus, mais ces gens-là, ils sont assignés à résidence. Ça a été considéré comme un progrès par pas mal de gens, en disant... Ah, on ne les met plus derrière les barreaux, notamment les familles, etc. Il y en a encore.
Il y en a encore. Même à côté de Chinois Colombie, à Courneuve-Arrieux.
Mais c'est un enfermement invisible qui se développe. Centre de rétention de Courneuve-Arieux, en 3 ans, il y a moitié moins de personnes qui sont placées. Alors c'est toujours trop de personnes, sauf qu'il y a toujours autant d'expulsions. Et ces personnes-là, elles sont assignées où? Elles sont assignées dans des domiciles chez des tiers, dans des centres d'hébergement, dans des hôtels, sans aucune aide, etc., puisque c'est des recours très courts en termes d'heures, si tu veux, à partir du moment où tu es assigné, et tu dois pointer tous les jours, etc. Et ça, on ne le voit pas. Et là-dessus, il y a besoin de s'adapter en termes d'action, quoi.
J'aimerais que tu développes justement cette notion d'assignation à résidence. Qu'est-ce que ça implique? Et derrière, dans quelle situation ça met les gens?
L'administration, elle peut prononcer des mesures d'expulsion à l'encontre de personnes qui ont des refus de papier ou qui sont contrôlées, etc. Et pour les mettre en œuvre, elle les met soit en rétention pour essayer de les expulser, mais il y a besoin de laisser passer, de choses comme ça. Et effectivement, depuis des années, tu as la moitié des personnes qui sont placées en rétention qui sont libérées. Donc du point de vue de l'administration qui le met en place, c'est pas efficace. Et du coup, ils ont créé ce truc... qui leur permet, donc l'assignation à résidence, c'est un pouvoir qu'a le préfet de mettre sous contrôle une personne, une famille, dans un lieu précis, avec une obligation de signer tous les jours ou 2 fois par semaine dans un commissariat. Mmh. Et du coup, elle a tout le temps de mettre à exécution, effectivement, l'expulsion, quoi. Et voilà, et t'as pas d'aide associative, si tu veux, effectivement, chez le tiers, à l'hôtel, etc. C'est quelque chose qui est vachement compliqué à identifier, parce que, y compris, c'était bien de passer le truc sur les acronymes juste avant, t'as un effet totalement pervers. Quand ça a été mis en place dans le GERS, je prends le GERS parce que c'est hyper caricatural de ce que ça engendre. T'as des personnes qui étaient déboutées du droit d'asile, c'est-à-dire qui sont refusées du droit d'asile, qu'on met dehors des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, et à ce moment-là, ils sont assignés à résidence. Mais eux, qu'est-ce qu'ils voient? C'est qu'on les assigne à résidence à l'hôtel. Donc il y avait une cinquantaine de personnes assignées à résidence à l'hôtel. Tout le monde a cru que c'était des solutions d'hébergement alternatives qui avaient été trouvées. Ils avaient un délai de 48 heures pour contester, rien n'a été contesté. Ils étaient dans le trou pour 45 jours, voire 6 mois. Et quand tout le monde s'est rendu compte que... Enfin, tu vois l'effet pervers du truc. C'est-à-dire que...
On traduise bien, parce que c'est un peu... C'est compliqué quand même à suivre. Vraiment. Donc, mettons, donc voilà, moi je suis une famille sans papier, on me dit vous êtes assigné à résidence. Donc, comme tu dis, oh super, on est à l'hôtel, chouette, on a un logement, quoi. Ouais. Voilà. Que nenni, en fait, il faut à ce moment-là se retourner contre... Voilà, il y a un recours, comme tu dis. Faut-il encore savoir qu'il y a ce recours à faire et comment le mener? Et si on le mène pas, là par contre on se retrouve dans la situation où on y est pour 45 jours et expulsable.
Ben voilà, t'as plus aucun recours possible. T'as 48 heures pour le faire, ce recours. Ouais, donc c'est écrit dans une décision en termes administratifs pour le comprendre. Tu peux toujours courir et puis après t'es vraiment sous le joug de l'administration. Et si tu respectes pas ton assignation, en cas d'interpellation ou de volonté d'aller en préfecture te régulariser, tu ne pourras pas puisque tu n'as pas respecté cette assignation et tu pourras être poursuivi pénalement pour une peine qui peut aller jusqu'à un an ferme et une peine de 10 ans d'interdiction du territoire.
Bon, mieux t'en expulser bien sûr.
Bien sûr.
Donc vraiment il y a une
logique.
Il y a une réelle criminalisation quand même qui est croissante quelque part, j'ai l'impression. Non, enfin je sais pas, c'est il y a ce côté voilà de être sans papier. Enfin vraiment il y a une notion de criminalisation, je trouve, encore plus importante, non, qui se fait actuellement.
Ah oui, c'est évident. Hein, ouais. Enfin toutes les réformes récentes, elles sont toujours dans la même logique de contrôle, etc. Mais on donne des pouvoirs complètement inconsidérés. Aux préfets, notamment aujourd'hui, les préfets ont un pouvoir de contrôler auprès des banques, de l'éducation nationale, de la sécu, etc., la véracité des informations données par une personne qui voudrait se faire régulariser ou qui serait en situation régulière et dont on aurait un doute sur les éléments qu'elle aurait fournis.
Non, tu trouves que c'est trop. Ça dépasse.
C'est évidemment trop, c'est des trucs de. Ça touche au croisement de fichiers, aux données personnelles, etc. Enfin, ça va super bien. Ouais.
Alors, comme c'est une émission en direct et en public, oui. Là, justement, il y a une réaction. Il y a une réaction tout de suite d'Adrien du public.
Oui. Moi, je suis sur Bordeaux et même pour approfondir un petit peu ce qui est en train de se passer, vraiment tirer la sonnette d'alarme, assigner les gens en hôtel, c'est plus suffisant maintenant. Il y a eu des appels d'offres carrément du gouvernement pour récupérer des hôtels. Donc, en Gironde, il y a deux hôtels, des Formule 1, dans lesquels habituellement les gens étaient logés, entre guillemets, dans l'attente d'un statut. Et donc, maintenant, ces hôtels sont transformés. Il y a un nouveau statut, un nouveau acronyme qui vient d'apparaître, c'est Prada. Et là, on est en train de fermer
les... C'est pas une marque de fringues, attention. Non.
Ça on fait quoi, ça?
Donc, Prada, on est en train de fermer les CAO. Alors, Prada, peut-être...
Programme régional d'accueil et d'hébergement...
Des demandeurs d'asile. Voilà, donc on est en train de fermer les CAO actuellement.
C'est les centres d'accueil et de rotation.
Pour mettre les Prada. Pourquoi? D'accord. Parce qu'on peut assigner dans un Prada et pas dans un CAO. Et je vous laisse deviner où est l'un des deux Prada de Gironde. C'est le Formule 1 de Mérignac. Mérignac, c'est l'aéroport de Bordeaux. Donc voilà la logique. Oui,
bien sûr.
Voilà où on en est.
Pour info, il y a trois Prada, il y a des appels d'offres qui sont parus la semaine dernière, qui sont en train d'ouvrir à Toulouse, et notamment un dans un ancien Formule 1. Et c'est clair ce que tu dis, c'est une forme d'institutionnalisation du CAO là aussi, et c'est quelque chose qu'on craignait depuis assez longtemps, c'est-à-dire que c'est des lieux donc, alors, qui sont spécifiques pour demandeurs d'asile, mais pas que demandeurs d'asile en procédure, c'est-à-dire que, comme pour les CAO, y compris, on va y accueillir avec 10 000 guillemets, des personnes qui feraient part de leur volonté de demander l'asile, mais en fait on arrive vers en fait le contrôle du début à la fin de la chaîne, c'est-à-dire ce que tu dis, on va prendre quelqu'un qui veut demander l'asile, si potentiellement il peut, il va le demander, quand il sera débouté il restera là-dedans assigné et puis il sera expulsé.
Et donc en fait c'est le CAO mais aussi le CADA, parce qu'en fait du coup Prada se retrouve à un espèce de mini CADA, et quelle différence il va y avoir? Bah justement pas l'accompagnement bénévole, et donc on va avoir de moins en moins un œil là-dessus sur ce qui est en train de se passer,
de moins en moins de contre-pouvoir.
Et voilà je pense malheureusement la direction que prend le gouvernement Macron quand il dit au niveau de l'Union Européenne l'accélération des procédures, voilà, ça va être de l'expéditif dans un petit coin juste à côté de l'aéroport sans que personne s'en rende compte.
D'accord. Vous voulez bien revenir sur les trois acronymes là, donc CAO, CADA, Prada.
Alors CAO, Centre d'accueil d'orientation, c'est des,
qui existe depuis deux ans.
C'est depuis octobre 2015, la première vague d'évacuation de Calais. Donc c'est un truc qui est sorti voilà, comme ça.
Ouais.
CADA, c'est des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est pas vraiment des marchés, mais c'est un marché de. Pour l'accueil des personnes qui sont en demande d'asile et donc avec un hébergement, un accompagnement, etc. Et donc les fameux PRADA, programmes régionaux d'accueil d'hébergement des demandeurs d'asile, qui sont en train de se développer partout et qui sont finalement des nouvelles formes de sous-CADA en termes d'accompagnement, ce que tu disais, et surtout de contrôle du début à la fin pour maîtriser le devenir de la personne.
Alors... Oui, oui, le contrôle social, rien de très extraordinaire d'un point de vue de la notion étatique.
J'ai envie de vous donner quelques chiffres. Vous allez me dire, notamment, Pierre ou Adrien, donc, c'est des chiffres-là qui viennent notamment. C'est, par exemple, c'est un pôle d'hébergement, un secteur d'asile, hein, qui a fait un petit triptyque, oui. Très, très instructif de comment ça se passe effectivement à l'intérieur. Et notamment des chiffres de l'asile en France en 2016. Donc, l'OFPRA, l'Office français donc, des.
Protection des réfugiés à Patrie.
Des réfugiés et des apatrides auraient reçu donc 85 244 demandes d'asile enregistrées. Ça, c'est donc les demandes asile qu'ils considèrent qu'elles sont acceptables à l'étude. Et ensuite, le nombre de décisions rendues en 2016 favorables, il y aurait 19 834 personnes qui ont eu la chance d'avoir leur papier. Un autre chiffre qui vient là d'Amnesty International, hein, c'est pas fondamentalement des gauchistes absolus, on va dire. Eux, donc, ils donnent le chiffre des migrants en France. Il y aurait en France quelques à peu près 273 000 réfugiés, donc des gens qui transitent donc par en France, tandis que juste un chiffre comme ça, la Turquie accueille actuellement 2,5 millions de réfugiés, le Liban en accueille 1,1 million de réfugiés, 1,1 million, tandis que la Jordanie en accueille 2,7 millions. Excusez-moi, les chiffres sont tellement énormes et on peut se dire que bon, le PNB de la Jordanie n'est pas du tout le PNB de la France, notamment qui en accueille quelques 273 000 sur lesquels on voit qu'il n'y a même pas 20 000 personnes qui arrivent à obtenir ce fichu papier, papier de réfugié. Donc c'est quand même assez... toi qui suis quand même, notamment par la CIMAD, la situation actuelle, et on va dire depuis ces dernières décennies, comment tu la vois actuellement? Qu'est-ce qui s'améliore? Est-ce que quelque chose s'améliore ou est-ce que vraiment ça va de mal en pis, vraiment?
Ou ça stagne?
Non, il n'y a rien qui s'améliore, c'est évident. C'est toujours une même logique, mais qui est poussée à l'extrême. C'est-à-dire que tu as un discours politique qui alimente une peur, une vindicte vis-à-vis des personnes immigrées. Alors, il y a eu une espèce de pseudo-glissement il y a deux ans en commençant à dire ouais mais en fait il y a quand même des personnes qui méritent de venir, c'est des personnes qui viennent des pays en guerre, etc. On a commencé à parler de réfugiés contre les réfugiés économiques, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, mais ça permet d'alimenter toujours ce discours là et ça alimente des lois qui donc transcrivent cette logique là mais ça alimente aussi des pratiques de l'administration. Pratiques de l'administration qui représentent donc l'État, qui sont souvent des pratiques illégales et qui légitiment aussi, et c'est ça qui est de plus en plus inquiétant, mais c'est pas nouveau, ça légitime quand même des discours dans la rue, ça légitime des personnes dans ce rejet de l'autre, et c'est pour ça que toutes les formes de collectifs de solidarité, etc., qui se développent, c'est important de les faire connaître parce qu'il n'y a pas que ce discours-là.
Qu'il y a des besoins de plus en plus grands, surtout en France, effectivement, de soutien, de solidarité, d'hébergement. Pour revenir un petit peu à la CIMAD, que fait la CIMAD aujourd'hui? Donc, tu as dit, la CIMAD intervient notamment, il y a une partie de la CIMAD qui intervient dans les centres de rétention administrative. De quelle manière? Et puis après, si tu peux justement nous dire les autres secteurs, et notamment les bénévoles. Voilà.
Alors. Dans les centres, donc c'est tenter dans l'urgence de faire des recours avec des réseaux d'avocats, etc., d'informer les personnes sur leurs droits, puis essayer de les rendre effectifs, ces droits-là. C'est un peu ce qu'on fait à l'extérieur aussi, dans des permanences d'accueil un peu partout, pour informer les gens sur leurs droits, tenter de faire des démarches ou pas. Ils vont faire leur choix en fonction des risques qu'ils prennent, parce que c'est ça aujourd'hui. Hein. En gros, aujourd'hui, t'as presque autant de risques à faire une demande qu'à pas en faire. Les conséquences sont pas forcément les mêmes. Mais ouais. Donc du coup, cet outil juridique, il est important pour que les personnes elles continuent leur parcours en connaissance de cause, mais il est absolument pas suffisant en soi. C'est pour ça qu'on développe surtout aujourd'hui des actions des interventions auprès d'un public qui ne connaît pas ces questions-là pour essayer de faire bouger un peu les lignes à ce niveau-là, ce qu'on appelle la sensibilisation, mais on peut l'appeler comme on veut. Quoi.
Ouais, une intervention ici. Ouais. Adrien,
oui. Moi, je suis bénévole à Médecins du Monde et militant, donc on est un peu en amont parfois de la CIMAD, parce qu'une fois qu'on est en centre de rétention, il n'y a plus que la CIMAD qui peut intervenir, mais nous, au niveau de Médecins du Monde, on fait aussi ce travail d'accompagnement, y compris avec des primo-arrivants, des mineurs isolés aussi. Et on a donc, Médecins du Monde, des psychologues et des psychiatres qui font un travail très important d'accompagnement et de soutien psychologique auprès de ces jeunes. Et je crois que les témoignages tout à l'heure des jeunes pris avec autonomie, enfin qui sont avec autonomie, étaient particulièrement édifiants. Et moi, je voudrais vraiment souligner cette détresse psychologique de gens qui... On ne quitte pas son pays pour rien, on ne quitte pas ses racines pour rien. C'est des mois, des années de trajet, des pertes énormes à tous les chemins. Et le jeune le disait, mais ils arrivent ici, ils reconnaissent même pas mon titre. Et derrière, cette non prise en charge, c'est une violence de plus qui s'accumule et qui fait encore des dégâts. Ici, à la fois avec la non prise en charge, mais aussi d'accusations permanentes dont les jeunes, qu'ils soient majeurs ou mineurs, font l'objet, quoi.
C'est important de le redire aussi, effectivement, l'aspect psychologique, parce que c'est vrai que... Et voilà, on voit bien qu'il y a un maillage, plus ou moins, qui peut encore... qui devrait peut-être se densifier un petit peu encore, entre ceux qui... la CIMAD qui fait beaucoup, quand même, d'aide juridique, essentiellement, beaucoup. Beaucoup.
Beaucoup, en tout cas... Tout est relatif, pas assez vu le nombre de personnes qu'il y a, et en fait, pas assez, ça veut rien dire, parce que c'est dans un cadre restreint qui est la législation actuelle. Donc t'informes les jeunes sur leurs droits dans une législation que tu dénonces à côté. Donc il faut aussi garder du temps pour organiser justement des actions pour essayer de faire évoluer tout ça, quoi. Donc c'est...
Enfin, également, la CIMAD a tendance aussi à orienter aussi les gens vers d'autres secteurs, non ? Oui, parce que effectivement, comme la CIMAD ne gère pas l'hébergement, ne gère pas d'autres choses, a tendance à effectivement être souvent un pôle qui oriente aussi. Et la CIMAD, tu le disais, est forte de 300 bénévoles donc en région Aquitaine, Midi-Pyrénées, c'est ça, donc maintenant. Et peut-être on peut donner la parole à Andris, justement, qui est bénévole.
Oui, donc je suis bénévole du groupe de Toulouse. Et non, la remarque que je voulais faire, ça correspond tout à fait à ce que Pierre a dit. Vous êtes parti sur sur du plus général et après on est revenu sur le spécifique de la CIMAD qui a en effet pour nous bénévoles on est sur Toulouse on a 15 à 20 bénévoles consiste à dans la pratique on commence par le téléphone, c'est-à-dire on fait des permanences téléphoniques. Et les gens qui s'adressent à nous passent par là. Il y a des gens qui arrivent au secrétariat et qu'on voit, mais même ces gens-là, on les oriente vers la permanence téléphonique. Et donc on essaie de cerner le problème par téléphone. Et ensuite, quand c'est trop compliqué ou quand c'est... Oui, quand c'est trop compliqué de le faire par téléphone, on donne des rendez-vous, donc on a des accompagnements physiques. Bon. Ça, c'est la spécificité de la CIMAD, tout au moins à notre niveau, au niveau de bénévoles. On a dit au départ que la CIMAD a réagi tout de suite positivement quand on a parlé de cette émission. Moi-même, quand Michel, à qui tu avais envoyé l'information, en a parlé, j'ai tout de suite réagi positivement parce que pour moi, en tant que bénévole, c'est important de sortir de cette spécificité et de collaborer, de s'insérer dans une solidarité plus large que uniquement le travail qu'on fait chez nous, quoi. Voilà. Okay. C'est ce que j'avais à dire.
Une question aussi, c'est pourquoi est-ce que toi, Andris, t'es bénévole à la CIMAD ?
Ça fait longtemps.
Ça fait je sais pas, 5 ans ou quelque chose comme ça.
Qu'est-ce qui t'a motivé à un moment donné?
Donc, la motivation, bon, on n'a pas tous des vieux, mais moi, c'est venu à la retraite, quand j'étais dans un trou parce que j'avais arrêté de travailler et donc, c'est pour... C'est parce que je ressentais un besoin d'activité pour moi. Oui. Mais ma volonté a été de que d'autres puissent en profiter, quoi, de cette volonté, de cette activité.
Et non, mais t'aurais pu faire autre chose, quoi. Comme
et donc, j'aurais pu faire autre chose. Je suis aussi, par exemple, dans les amis du monde diplomatique.
Okay.
Oui. Mais je justement élargir de mon horizon aussi. Mm-hmm. Tout ça revient à la même chose, ça revient à cette solidarité avec d'autres, quoi.
D'accord.
Très bien.
Adrien ?
Je voudrais dire que faut vraiment pas hésiter à pousser la porte des associations, que ce soit la CIMAD, l'ASTI, Médecins du Monde, tous les autres, notamment Autonomie, à qui je tiens à rendre un grand hommage, parce que vraiment, moi, j'ai vu un peu ce qu'ils font sur Toulouse, sur Bordeaux, ça n'existe pas et ça nous manque vraiment. Voilà, derrière ces portes, vous trouverez des gens hyper sympathiques qui vous aideront à aider les autres. Et il n'y a pas besoin forcément de compétences particulières à la base, il faut juste avoir l'envie de l'autre, l'envie d'ouvrir les frontières, comme c'est le thème ce soir. Et d'ouvrir son cœur à l'autre, et ce monde en a besoin, et vraiment, vous pouvez être la graine qui change le monde.
Ok.
Ça c'est
sur ce.
Mais, voilà, juste dire aussi que la CIMAD aussi est très présente aussi sur notamment un festival qui existe depuis bientôt une vingtaine d'années, hein. Donc festival Migrants en scène, qui est parti de Toulouse et qui est devenu en fait ensuite un festival national et qui amène justement à rappeler une chose, c'est que toutes les personnes qui arrivent en France, bah, l'irriguent de sang nouveau, et de cultures nouvelles et d'autres choses, et que c'est toujours un énorme enrichissement. Donc c'est un festival culturel avec énormément c'est une espèce de florilège, donc que ce soit cinéma, musique, exposition, rencontre, et donc ça se déroule souvent donc à l'automne, c'est chaque automne effectivement qu'il y a ce festival là voilà, donc il y a plein de secteurs dans lesquels les gens peuvent intervenir, que ce soit la CIMAD comme tu disais si bien, et dans toutes les autres associations notamment. Voilà. Peut-être, André, si tu veux rajouter un mot.
Un dernier.
Oui.
Solidarité.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est tous là.
Merci.
C'est pour ça qu'on est tous là. En tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi, les gens du public, à vous manifester si vous avez envie de réagir. Merci beaucoup, ouais. Adrien, aussi, d'avoir apporté aussi ta contribution. Parce que c'est vrai qu'à Bordeaux, bah, c'est pas très loin. Mais déjà, les problèmes sont encore différents. Et que tout ça, effectivement, il y a besoin de soutien de partout. Et que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de tenir une permanence téléphonique. C'est pas compliqué d'ouvrir sa porte ou son cœur, comme tu dis. Ouais. Voilà.
Donc, oui, Radio Libre, circulation, je crois qu'on va enchaîner.
Circuler, il y a tout à voir.
Avec migrants, mi-homme, un PAD.
Un petit
tout
PAD.
Près,
voilà, près. Et ça, c'est donc, on a glané cette fois-ci un son qui nous vient d'Internet, et c'est les Date à gueule. Date à gueule, et cette fois-ci, en plus, on trouve que le titre est très bien, c'est ouais. Migrants, mi-homme, c'est-à-dire, voilà, qui rappelle à quel point on oublie qu'on est tous des hommes, mais c'est pas comme ça qu'effectivement sont considérés les migrants.